Grand angle.
Grand angle sur Radio Orient. Trois piratages massifs de données de particuliers et d'entreprises ont eu lieu cet été en France au sein des administrations. Un vaste piratage informatique visant le fisc. Près de 700 000 contribuables ont été touchés. Le ministre français des Comptes publics, David Amiel, a présenté mardi ses excuses et le parquet de Paris a ouvert une enquête retenant les chefs d'extraction frauduleuse de données et d'associations de malfaiteurs. Ce mardi, le fisc a annoncé une troisième fuite sur les données liées aux successions. Une fuite rapidement coupée, mais déjà ces cyberattaques posent la question de la sécurité informatique en France. Pour en parler, notre invité est Akram Azam, chef du pôle cybersécurité dans le cabinet de conseil CIA Partners. Bonjour.
Bonjour.
Alors, des données très sensibles pour les particuliers notamment ont été volées, incluant le quotient familial, le taux de prélèvement, mais également les numéros de téléphone et adresses. Quels sont les risques pour les contribuables ?
Principalement, bien sûr, il y a le sujet d'usurpation d'identité, donc de malfaiteurs qui pourraient usurper cette identité pour conduire des actions comme contracter des frais ou d'autres actions vis-à-vis des tiers ou des administrations. Le deuxième sujet, c'est aussi, ça peut aller jusqu'à un risque physique, parce que comme on a le revenu fiscal de référence de ces personnes-là, on peut facilement identifier les personnes qui ont des revenus assez confortables, on dispose de leurs adresses, et donc des criminels pourraient conduire même des actions de homejacking. Donc les risques sont variés, ils vont du numérique, de la fraude numérique jusqu'à de l'atteinte physique.
Alors l'attaque, elle a reposé sur l'utilisation d'identifiants usurpés. Ceux d'un agent de la Direction générale des finances publiques ont été combinés à ceux d'un tiers habilité par l'administration. Est-ce que ce type d'attaque relève davantage d'une faille technique, d'une erreur humaine ou d'un défaut de contrôle des accès ?
Cette attaque n'est pas très sophistiquée, elle est très simple à mener. Je pense que le défaut il vient principalement d'un défaut de sensibilité, sensibilisation des agents qui disposent d'accès très critiques et complexes, mais aussi sa responsabilité de l'administration qui n'a pas mis en place des systèmes qu'on appelle de double authentification, qui consiste à la fois d'entrer le nom d'utilisateur, le mot de passe, mais aussi de disposer d'un équipement physique qui va générer un code aléatoire et qui permet justement de s'assurer que personne ne peut se passer pour cet agent. Le deuxième problème aussi, la faille que j'identifie, c'est que c'est tout à fait anormal qu'un seul agent puisse disposer d'autant de privilèges sur une telle base de données ou des outils métiers et de pouvoir faire un extract de données aussi important.
Ces attaques, elles ont été revendiquées par un duo de hackers qui se fait appeler Zero Bytes. Que sait-on d'eux ? Ils ont affirmé avoir mis en vente ces données. Qui sont les potentiels acheteurs et que peuvent devenir ces données ?
Donc Zero Bytes, c'est un groupe cybercriminel qui, l'effet connu qu'il avait eu auparavant, c'était principalement de l'attaque sur une base de données dans la grande distribution, plus spécifiquement sur l'activité du drive, et après sur un acteur des jeux numériques. On va dire qu'ils se sont fait une réputation grâce, malheureusement, au piratage du fisc. Et dans leur communication, ils étaient très, très clairs. Pour eux, c'est tout simplement une démarche pour intérêt financier. Donc les bases de données, ils ont été mises en vente. Et donc tout simplement, quand ils revendiquent l'attaque, donc ça vaut aussi mise en vente, ils se refusaient de fixer un prix. Donc ils restaient sur le principe de l'offre et de la demande. Et à la fois, les bases de données pouvaient être vendues en totalité ou de manière partielle. Donc il y a des chiffres qui oscillent entre 3 000 et 30 000 euros. Et je pense qu'on va rester justement en fait dans cet intervalle-là.
Qu'est-ce qu'on sait des potentiels acheteurs ? Qu'est-ce qui peut se passer derrière avec ces données ? Quels sont les risques ?
Les potentiels acheteurs, à la fois des cybercriminels qui vont les monétiser, conduire des actions frauduleuses, envoyer du phishing, essayer d'usurper des identités, comme je dis, auprès de tierces, de plateformes ou de banques, etc. Donc il y a principalement ce risque-là. Deuxièmement, des criminels tout court qui pourraient identifier des cibles pour d'éventuels cambriolages ou d'autres actions. Ça peut aussi être utile pour des services étrangers, pour identifier des personnes vulnérables, en tout cas qui travaillent pour certains employeurs ou qui ont un certain niveau de revenus et Cela représente un point de faiblesse. Donc les risques sont variés. Donc tout simplement, ce qui va se faire, c'est que ça va être rentabilisé, soit de manière financière, soit parce que ça relève plutôt du renseignement ou d'une autre action.
Et les derniers jours, les critiques, elles se multiplient depuis la révélation de ces attaques. La France ne serait pas correctement préparée en matière de cybersécurité. Est-ce que le pays est plus vulnérable que d'autres pays comparables?
J'irai pas jusqu'à dire que le pays est plus vulnérable. Le pays est plus attractif pour des cybercriminels et des hackers que les autres pays, parce que la France, c'est une puissance économique, c'est une puissance politique, géopolitique, une puissance nucléaire. Et aussi, de par la construction de son administration de manière historique, elle dispose de bases de données ultra centralisées, enrichies, maintenues dans le temps. Donc il y a principalement ce sujet-là. L'autre aussi qui fait que la France représente autant de vulnérabilités sur ces systèmes, c'est que c'est un héritage de systèmes d'information, des briques qui ne sont pas homogènes entre elles, qui n'ont pas été conçues pour faire face à l'état de la cybermenace actuelle et qu'on a essayé de maintenir tant bien que mal et qui n'ont pas évolué. Donc c'est là où c'est sidérant justement pour que sur un système aussi sensible que celui du fisc, pardon, que des agents ne puissent pas disposer d'un système de double authentification qui est juste le minimum.
Et est-ce qu'on sait d'ailleurs s'il y a un débat pour mettre en place une double identification, des mesures immédiates qui ont été prises par la Direction générale des finances publiques?
Le gouvernement a bien annoncé qu'ils allaient mener une action coup de poing pour mettre en place la double identification sur l'administration de la DGFiP. Cela dit, je me permets juste justement d'émettre un peu quelques points d'attention par rapport à ça. On vient pas installer un système de double identification aussi simple que ça sur un système legacy, donc qu'on a hérité à travers le temps. Donc il y a des mécanismes à mettre en place. Et aussi, généralement, la double authentification nécessite de disposer d'un équipement à côté. Donc, en tout cas, ça peut être sur un téléphone mobile, on va installer une application ou sur un autre équipement token qui génère des codes aléatoires. Et à ma connaissance, tous les agents du fisc en France ne disposent pas de téléphone professionnel ou de ce type d'équipement. Donc, il y a aussi quand même un vrai challenge logistique à mener par rapport à ça. En tout cas, ça ne sera pas dans le mois ou dans les quelques mois à venir. C'est quelque chose qui va prendre du temps.
Alors, je l'avais dit en introduction, le parquet de Paris a ouvert une enquête retenant les chefs d'extraction frauduleuse de données et d'associations de malfaiteurs. Les citoyens concernés doivent-ils s'attendre à des conséquences concrètes dans les prochains mois?
Donc là, bien sûr, en fait, la procédure judiciaire qui est ouverte, c'est principalement pour identifier les rôles et responsabilités, de reconstituer les faits, d'essayer d'identifier ce groupe de cybercriminels. C'est quelque chose qui peut aboutir, mais que ça prendra beaucoup de temps. Et généralement, c'est très difficile derrière l'anonymat numérique d'identifier qui que ce soit. Pour les citoyens, les utilisateurs dont les données ont fuité, malheureusement, ça leur ramène rien parce que il y a aujourd'hui un vide juridique où l'État, même si ça a été responsable par exemple d'une fuite de données et que ces données-là ont été utilisées à l'insu d'une personne pour commettre une fraude, une usurpation d'identité, il n'y a rien qui protège cette personne-là. Elle va devoir faire aussi ses démarches administratives, légales, engager des frais de justice, etc. Aujourd'hui, justement, et ça c'est là où le bât blesse, c'est qu'il n'y a pas de protection pour ces personnes-là dont l'État ne s'est pas montré à la hauteur de la protection de leurs données.
Merci Akram Azam, chef du pôle cybersécurité dans le cabinet de conseil SIA Partners. Et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Radio Orient ou sur Spotify.
C'était Grand Angle.